Jésus le dira dans un autre endroit, il dit « Ce n'est pas ce qui rentre dans le corps de l'homme, c'est que ce qui en sort, qui souille l'homme, qui fait pécher l'homme. » En fait, ce que Dieu est en train d'expliquer, c'est Jésus qui parle, il dit « C'est ce qui est à l'intérieur de toi qui produit des troubles. » Vous êtes là ? Et du coup, en fait, il y a tout, à l'image de cet arbre, en fait, Dieu s'intéresse à toute cette partie-là. Vous voyez, ces racines. Et dans les racines, c'est la partie cachée qui est sous la terre. On ne voit pas trop ce qui se passe ici. Nous, ce qu'on voit, c'est là-haut les branches, on voit les fruits, on voit les feuilles, on voit le feuillage. Mais Dieu s'intéresse à cette partie-là parce que c'est souvent là que se trouvent les mobiles cachés du cœur. Pourquoi est-ce que tu fais ça ? Qu'est-ce qui te fait avancer dans la vie ? C'est quoi le carburant, le combustible qui te fait aller au travail, qui te fait lever le matin, qui te fait même aller à l'église ? Qu'est-ce qui te motive dans ton ventre ? Qu'est-ce qu'il y a ? Et du coup, il y a une vie secrète que personne ne connaît ou que peu te connaissent, et il y a une vie publique que les gens vont admirer, célébrer, juger. Et à l'image de cet arbre, comme je vous le dis, la vie secrète, c'est toutes ces racines que personne ne voit, et il y a cette vie publique que les autres vont apprécier. En fait, c'est le résultat direct de ce qui est caché. Ça va être nos habitudes, ça va être mon caractère, ça va être mes réactions visibles. Et en fait, tout ça est associé l'un à l'autre. En fait, il n'y a rien qui est dissocié, que ce soit d'ailleurs l'argent. L'argent, l'estime de soi, l'amour, l'orgueil, le besoin de reconnaissance, de position, tout prend racine dans ce que je cultive dans mon cœur. Vous comprenez ? Et la vie publique révèle toujours la santé des racines. En fait, je le dis comme ceci, ce que personne ne voit détermine ce que tout le monde verra. Et regardez avec moi dans la Bible, la prochaine slide, voici ce que Jésus dit. « Car quiconque fait le mal haït la lumière. Et il ne vient point à la lumière de peur que toutes ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. » Et en fait, c'est intéressant, c'est que je n'ai pas peur de la lumière, je n'ai pas peur que ma vie soit exposée parce que j'ai rien à cacher. Vous me suivez ? Il n'y a rien en moi dont j'irai à rougir devant vous et devant Dieu. Et en fait, c'est vraiment ça le sens du texte. Et souvent, ce qui se passe, c'est que le diable aime travailler dans l'ombre, dans l'obscurité. Et voici pourquoi il est dit dans 1 Jean 1, verset 9, il dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour… » Bon les amis, on va faire une session ce matin. C'est qu'on va inviter tout le monde. Enola, toi la première, allez, je te file le micro et confesse tes péchés. Eh ben, Jules, il y en aurait pas mal. Allez-y. Qui voudrait faire ça ? Ah, personnellement, commence par... JD, si tu veux bien commencer. Parce qu'en fait, ce qui serait bien, c'est que ce serait une espèce de thérapie de groupe. Alors que les autres confessent leurs péchés, tu te sens moins seul tout d'un coup. C'est fou. Et écoutez les amis, j'ai un peu réfléchi à ce verset. Pourquoi il est dit si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Écoutez bien ceci, c'est que quand tu amènes quelque chose à la lumière, parce qu'elle est mise à la lumière, ça perd son pouvoir. C'est fini, ça s'arrête. Il y a des gens qui trompaient leur femme, leur conjointe, je précise, c'est pas mon cas, mais... Le jour où ils sont exposés, c'est comme s'ils avaient besoin d'être exposés, d'être révélés pour que ça cesse. Il y a la peur, il y a la crainte, il y a les dégâts collatéraux, mais stop, ça s'arrête. Prochaine diapo, je ne sais pas si vous avez vu cela, mais il y a Andy Byron. Qui est-ce qui a déjà vu ça ? Seigneur de... Le PDG d'Astronome. Bref, pour ceux qui connaissent... Qui est-ce qui connaît pas ce gars-là ? Je lui ai levé la main. Ah, il y en a quelques-uns. Bon, ok, d'accord. Bon. Laissez-moi vous en parler. C'est que quelque part, quand ça s'est passé, vous étiez peut-être pas sur la planète Terre. Parce que c'est devenu une vidéo virale partout. Laissez-moi vous expliquer. Ce monsieur, il s'appelle Andy Byron. Il est président directeur général d'une entreprise qui s'appelle Astronome. Bref, ils sont spécialistes dans les télescopes intelligents. C'est quelqu'un de brillant, charismatique, très respecté dans le monde de la tech. Et cet homme, il trompe sa femme. Et en fait, il est avec cette femme qu'on voit juste en dessus qui s'appelle Avery Collins. C'est la directrice de communication de l'entreprise. Et les deux, en fait, ils étaient bons amis, l'image projetée, publique, à l'écran, tout le monde est bien. Et un jour, il dit, bah, tiens, à son amante, viens, je t'amène voir un concert de Coldplay. Et tu sais, il est là, et c'est là, c'est bien, puis il vive un moment, il est bras dessous, et ouh, et il y a un truc qui fait le chanteur, il fait ce qu'on appelle la kiss cam. Ça vous parle pas, la kiss cam? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on braque, c'est un gars avec une caméra qui repère des couples dans la foule, littéralement, dans les gradins. On parle de dizaines de milliers de personnes. Et il filme un couple en particulier et il dit, ben, c'est le Mimi, embrassez-vous. Sauf qu'à ce moment-là, il est mis devant le monde entier avec son amante. Et tu vois la réaction dès que il y a une gêne et tout de suite la femme elle se cache parce que lui il était marié, elle était mariée. Catastrophique. La vidéo a été remixée, commentée, partagée des millions de fois comme deux adolescents qui ont honte. Ils se cachent. Pire encore, les médias se sont emparés de l'affaire. Tu sais, le gars, plus on avance, à chaque fois que tu te mets sur YouTube, il y a des millions de vues qui passent et le type, il ne maîtrise plus cette situation. Et en fait, les médias s'embarquent de l'affaire, estimant que le PDG d'une entreprise majeure devrait éviter tout comportement susceptible d'être mal interprété. La pression, elle monte. Puis du coup, les actionnaires de l'entreprise viennent et disent ce gars-là, il a nui à l'image de l'entreprise, il a manqué de professionnalisme et à la fin, ils l'ont poussé à le démissionner. Et il a fait une lettre, il a dit nos dirigeants sont attendus pour montrer l'exemple, mais même si ce moment n'a rien de répréhensible, je réalise que ma mission nuit à l'entreprise. J'ai nui à l'entreprise et je décide de démissionner, au revoir. Pouvez-vous imaginer ce gars? Il n'a pas Dieu. Il n'est pas croyant, mais il se lève un matin et il se dit « Qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi le truc? Il y a un truc qui m'a échappé. » La Bible nous dit « Il n'y a rien qui est caché qui ne doit venir à la lumière. » Et parfois, ça peut être dans des circonstances douloureuses. Dès ce moment, c'était fini pour lui. Et pourquoi Dieu nous invite à confesser, exposer nos péchés? Parce que c'est fini le jour où ils sont mis à la lumière. Des habitudes, des addictions, des penchants, quand tu les exposes, et je vous invite pas à confesser forcément cela en public, parce que la Bible, elle ne nous dit pas forcément de confesser ça en public. Tu peux prendre un frère, quelqu'un de confiance, où tu dis là, j'ai du mal avec cette chose-là. D'ailleurs, on va mettre sur le WhatsApp de l'église un email confidentiel où il y a des gens, si vous galérez avec une situation, quelle que soit une addiction, quelque chose où vous avez du mal, et suite à ce message, je vous dis, voilà, j'ai besoin d'aide, vous envoyez un mail, et on fera tout en sorte pour essayer de vous aider. Mais ne continuez pas à vivre avec quelque chose qui est caché. Il y a quelqu'un qui est très proche de moi, qui me parlait de ça juste pendant les périodes de fête de Noël, et il voyait la santé de l'église, il voyait des gens qui avaient des vies cachées, il me dit, je crois que ça concerne l'église. Et je vous tends le message à qui que ce soit, vous qui m'entendez, femme ou homme, s'il y a quelque chose dans votre vie qui est caché, qui ne correspond pas à ce que Dieu veut dans vos vies, venez, confessez-le, parlez-en, ne restez pas comme ça. À bon entendeur, salut. Je ferme la parenthèse. Du coup, Jésus, et c'est troublant parce que quand tu regardes Jésus, il nous invite à confesser nos péchés que nous cachons, et à cacher notre bonnes œuvres que nous voulons mettre en lumière, nos actions. Et c'est comme s'il nous invite à développer notre vie intérieure profonde, à travailler les profondeurs. Prochaine diapo, du coup, c'est la vie cachée en Dieu doit être plus grande que ma vie publique. Regardez mon arbre. La vie cachée en Dieu doit être... Bon, il va falloir que je le règle ce truc, mais la vie cachée en Dieu, que personne ne voit, les racines, tout ce que je vis, doit être plus grande que ce que je vois à l'extérieur. Et du coup, j'ai envie de vous poser la question, si les branches sont plus grandes que tes racines, en fait, tu es en danger. Parce que ça signifie que ta relation avec Dieu dans le secret est faible, voire inexistante. Et qu'est-ce que tu vis, en fait, avec Dieu en dehors de l'Église ? Y a quelqu'un ? Qu'est-ce que tu vis en dehors de les dimanches matins ? Est-ce qu'il a accès à ton cœur ? Est-ce que tu lui parles ? Est-ce que tu l'aimes ? Un petit peu ? Beaucoup ? Passionnément ? Pas du tout. C'est quoi la relation que vous avez avec Dieu ? Et vous savez pourquoi c'est important d'aller puiser et développer cette intériorité spirituelle ? Parce qu'il y a des moments où, qu'est-ce qui va se passer ? Il risque d'y avoir une tempête. Il y a des moments, les amis, où le vent risque de souffler fort. Et prochaine diapo, quand le vent souffle fort, voilà ce qui se passe. C'est que si vous n'avez pas de racines, vous allez être désarçonné, dépouillé. La profondeur précède toujours la hauteur. Et plus tu creuses profond, naturellement, tu vas grandir, tu vas prendre de la hauteur, tu vas être visible. Mais en fait, souvent, la tempête frappe toutes les vies. Il y a un choc, il y a une injustice, il y a une incompréhension. Ça peut être une déception causée par un pasteur, un leader chrétien, un chrétien lambda, quelqu'un en qui je faisais confiance. J'ai été déçu par quelqu'un, vous comprenez ? Qui a déjà été déçu ? J'ai été blessé. Cette personne, au nom de Dieu, m'a fait du mal. Ça parle à quelqu'un ? Trahison pour les nuls, je peux faire un bouquin, j'ai des idées si vous voulez. Et là, ce qui se passe, c'est que la tempête, elle ne va pas révéler le fruit, elle ne va pas révéler si tu as des grandes branches, elle va révéler tes racines. Est-ce que tu es enraciné ? En fait, un arbre ne fuit jamais la tempête, il la traverse. Et du coup, quand tu es enraciné en Dieu, t'es ébranlé, mais t'es pas couché, t'es pas déraciné. Le vent souffle. Et quand le vent souffle, tu es amené à creuser plus profond. Tu es amené à aller plus profond, et aller, ça pousse, ça tire. L'épreuve t'amène à creuser plus profond. Et voilà ce que dit ce verset, c'est touchant dans le psaume, verset 1. Il dit « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil et les gens, la voie, la destinée des gens méchants sans foi ni loi. Il aime au contraire garder l'enseignement du Seigneur, c'est-à-dire la Bible, les choses qui sont agréables au Seigneur, je les mets dans mon cœur. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. » Waouh ! Et voici ce que Jésus dira. J'ai juste deux points sur la prédique. Prochaine diapo. Le lieu caché, c'est le sanctuaire. Je vous l'ai dit, le Dieu où Dieu scrute le cœur avant même les œuvres. Voici ce que Jésus dira. Je l'avais prêché, j'avais cité ce verset, ce passage il y a deux semaines et je me suis senti de vous le repartager à nouveau. Gardez-vous d'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer Dieu ce que vous faites pour obéir à Dieu. Sinon, vous avez déjà reçu votre récompense de votre Père Céleste. Ainsi, quand tu donnes quelque chose aux pauvres, ne le claironne pas de partout. Ce sont des hypocrites qui agissent ainsi devant les synagogues et dans les rues. Ils aiment qu'on chante leurs louanges. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont déjà reçue. Mais toi, quand tu donnes, un petit coup de coude à ton voisin et dis-lui, c'est toi qui parles. Dis ça à quelqu'un à côté de vous. C'est toi qui parles. Moi, je dis ça à ma femme, elle dit, oui, mais c'est toi qui dois donner. Mais toi, quand tu donnes, que personne ne sache que ton aumône se fasse dans le secret. Quand vous priez, n'imitez pas les hypocrites qui aiment faire des prières debout dans les synagogues à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont déjà reçue. Mais toi, c'est toi dont ils parlent. Quand tu développes ta spiritualité, quand tu veux prier, va dans la pièce la plus retirée. Verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui est dans le secret te le rendra. Jésus parle ici d'un lieu qui est secret. Il parle d'un lieu que c'est vraiment cette intériorité, c'est un lieu qui est choisi, qui est voulu. Jésus n'a pas dit « si t'as le temps, si tu te sens bien, si t'es un leader ou engagé dans l'église ». Non, il dit « quand tu pries ». En fait, Jésus s'intéresse à la façon dont tu pries, à la façon dont tu donnes les choses. En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que Jésus s'intéresse pas tellement au montant qui est sur le chèque, Jésus s'intéresse comment tu fais le chèque. Est-ce que vous suivez ? Quand tu donnes de l'amour, quand tu donnes de l'argent, quand tu donnes ton temps, c'est la manière qui est la manifestation de ce que Dieu fait en toi. Et c'est pour ça qu'il dira, prochaine diapo, gardez-vous des prophètes, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Un arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et même, je vais plus loin, écoutez les amis, il y a un truc de dingue, pour ceux qui n'ont peut-être pas beaucoup de culture chrétienne, il y a... En fait, quand l'Esprit de Dieu habite en vous, à l'image de cet arbre, il va produire un fruit qui est, oh Seigneur Dieu, à chaque fois que je le lis, ça me défie intérieurement, qui est les sept fruits. C'est l'amour. C'est la joie. Quand Dieu habite en quelqu'un, il est joyeux. Ok. Quand Dieu habite en quelqu'un, il est joyeux. C'est pas normal, parfois, qu'on arrive dans l'église, il y a plus de morts à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il est joyeux. Il a de la paix. Seigneur, avec tout ce qui se passe, il a une paix. Il a une patience. Seigneur, chérie, ça c'est pour nous, avec nos enfants. Il a de la patience. Quelqu'un dira, Seigneur, j'ai besoin de ta patience, et tout de suite. Il a de la bonté, de la bienveillance, c'est de la gentillesse. Hey, les amis, vous avez déjà vu quelqu'un qui est gentil ? Ça fait du bien, pas vrai ? Il est gentil. De la bienveillance, de la fidélité. Il est fidèle, il ne me plante pas, il est là. Il y a cette fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, Seigneur. La loi n'est pas contre toutes ces choses. En fait, quand Dieu travaille ton cœur, le résultat, les fruits, c'est tout ça. Du coup, les amis, faisons un petit test ce matin. Vous prenez les 7 fruits et vous vous donnez sur 10. Faites le travail à la maison, vous allez voir, ça risque de faire du mal. Je suis comment au niveau maîtrise de moi, chérie ? Non, ça va pas répondre publiquement, je vais confesser mes péchés, mais... douceur, amour général, j'ai au moins la moyenne, enfin, vous voyez ? Demandez à votre conjoint de vous évaluer et essayez, non mais franchement les amis, prochaine diapo, un arbre qui ne porte pas de fruits. Jésus dit cette parabole, un homme avait un figuier planté dans sa vigne, il vient chercher de fruits, il écarte les branches et les haies, et il n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron, eh ben, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit. À ce figuier, je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi il devrait occuper la terre inutilement ? Et le vigneron lui dit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour, j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du bon fruit. Eh bien sinon, tu le couperas. Alors, j'ai étudié un petit peu le texte. Il lit l'histoire d'un figuier dans une vigne. Ça vous choque pas ? C'est comment dire, un boucher dans une boulangerie. Un agent de la DEA chez Pablo Escobar. Enfin, vous voyez, il y a... C'est... Qu'est-ce qu'il y a ? Une vigne est faite pour la vigne. Un figuier, c'est fait pour être dans un verger. Et Jésus a volontairement... Quelqu'un disait ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, et je me suis inspiré et je trouvais le point bon, c'est pour ça que je vous le partage. Jésus, volontairement, il parle un peu d'une anomalie agricole. Alors nous, ça ne nous parle pas, sauf que quand Jésus raconte l'histoire, il y a tout le monde qui a bugué. Mais pourquoi il dit un figuier dans une vigne ? Mais non ! Et en fait, le problème, c'est pas simplement... Le problème n'est pas que le figuier ne porte pas de fruits, mais c'est qu'il occupe un espace privilégié qui n'est pas le sien. Le figuier, pour le faire simple, les amis, il profite du sol. de la même eau, du même entretien, le même ensoleillement. Il reçoit la même chose que la vigne. D'accord ? Mais il ne produit pas de fruits attendus. Et ça représente un croyant qui est exposé à la parole de Dieu, aux mêmes enseignements, à la même présence de Dieu, la même louange, la même chose, mais il n'y a pas de transformation dans le cœur. Est-ce que vous me suivez ? Et la Bible présente souvent le figuier, souvent comme Israël et d'une certaine façon aussi les religieux de l'époque. Et la vigne représente, je dirais, les nations, l'œuvre de Dieu qui porte du fruit dans toutes les nations. Et en fait, ce que Jésus reproche à Israël, c'est d'être au cœur de l'activité de tout ce que Dieu voulait faire, de ce réveil qui prenait place avec la venue de Jésus. Et c'est comme s'ils prennent de la place, ils consument des ressources et ils empêchent aux autres de pousser. Et c'est comme si la stérilité, elle est jamais neutre. Il est planté là par choix, c'est pas un hasard. Le texte, il nous dit, le propriétaire, l'homme, avait planté un figuier dans sa vigne. Du coup, c'est Dieu qui l'a voulu là. C'est Dieu qui lui a donné même une opportunité. Dieu l'a placé dans un environnement favorable. Le problème, ce n'est pas l'emplacement. Le problème, c'est l'absence de réponse à l'amour de Dieu et à toute sa grâce. Du coup, le figuier dans la vigne représente quelqu'un qui est au bon endroit, dans le bon environnement, mais qui ne vit pas ce pourquoi il est là. Et on peut être au milieu de la vigne, au milieu de cette vigne, au milieu de la présence de Dieu et rester stérile. Et du coup, ce qui se passe, c'est intéressant, c'est que t'as cette intercession de Jésus qui représente ce vigneron qui dit « Donne-y une chance. Je vais travailler son cœur. » Et il a creusé tout autour du figuier. Pourquoi d'après vous ? Vous êtes là ? Pourquoi ? Pour mettre les racines à nu. Pour mettre ce qui est caché à la lumière. Pour intervenir. Il a cassé des mottes. Il a enlevé de la terre. Il a fait quelque chose, il a bêché tout autour, il a passé du temps. Il va toucher les choses qui sont cachées, toucher des zones sensibles, révéler l'état de tes racines au fond de toi. Et tout ce qui est devenu même imperméable à l'eau, à la présence de Dieu, stérile malgré la pluie. Tout comme le cœur humain, on peut être endurci avec le temps par une routine religieuse. Et Dieu, en fait, il va creuser là où ça fait mal. Parce que c'est là que naît le fruit. Dieu ne creuse pas pour t'exposer, mais pour te sauver. Du coup, en fait, Dieu nous donne des opportunités de changement. Et il veut creuser en nous. Et maintenant, j'aimerais vous dire la raison pourquoi ce message est là. Pourquoi est-ce que j'ai fait ce message ? C'est quand, chérie ? C'est Shane Bowles. C'est il y a une semaine de ça, quelqu'un que j'aimais, quelqu'un que j'appréciais, quelqu'un qui était un grand prophète, très connu, très charismatique, on s'est aperçu, a été dévoilé publiquement au monde que ce gars-là, finalement, c'était un arnaqueur. Il y avait une supercherie, il donnait des paroles à des gens, mais finalement, il avait une vie double, une vie qui n'était pas correcte, une vie qui fait honte à l'évangile. Et quand il y a ça, il y a des gens qui ont été scandalisés, il y a des gens qui ne vont plus à l'église, il y a des gens qui ont été victimes même de cet homme-là. Et ça peut arriver, j'allais dire, dans le monde. Vous allez dans la société, il y en a plein qui arnaquent les gens et qui font toutes sortes de choses. Mais au moins, eux, on va dire, ils n'ont pas Dieu. Mais quand tu revendiques avoir Dieu dans ta vie, vouloir faire le bien, et que tu fais les pires choses, c'est tellement plus condamnable. Vous êtes avec moi ? Et du coup, je ne sais pas pourquoi, mais alors que j'ai vu, on a suivi toute cette histoire avec mon épouse, il y a un moment donné, un matin, je suis devant Dieu, je me mets à pleurer parce que quelque part, je me dis, c'est comme si ça m'envoie un miroir à moi. Des fois, j'ai prié pour des gens et souvent, une des choses que Dieu nous donne et m'a donné personnellement, c'est par exemple d'avoir des paroles très très fortes d'encouragement. Mais il y a des fois, je n'étais pas complètement dedans et j'ai quand même poussé l'histoire, comprenez ? Parce que de l'orgueil, parce que vouloir peut-être impressionner, parce que je ne le sens pas, mais bon, allez, j'y vais par la foi. Mais il y a des trucs, il y a comme une crainte dans mon cœur de dire waouh, je suis pas allé là où il était lui, mais en tout cas, je laissais l'esprit me reprendre et je me suis mis à pleurer. Je dis waouh, des fois je suis pas bon, je suis pas dedans. Ou... Et il y a cette sainte crainte de Dieu qui est venue en moi. Et du coup, la question que je me suis posée, c'est pourquoi on voit l'arbre qui est tombé avec la vie de cet homme-là qui fait un scandale? Et avec tout aussi, j'ouvre une parenthèse, mais tous les dégâts collatéraux qui sont tout autour. Parce qu'il y a des gens, quand ils viennent à l'église, c'est parce qu'ils font confiance à un leader, vous êtes là. Et demain, on est d'accord que si Jonathan ou Elisa, il y avait une vie décousue, bah, votre vie avec Dieu, elle serait fortement affectée. Vrai ou pas vrai? Ok, on est d'accord. Du coup, la vraie question à se poser, c'est sur qui est-ce que vous mettez vos racines? Est-ce que c'est sur l'Église? Est-ce que c'est sur un ministère, un homme, fût-il grand, extraordinaire, tout ce que vous voulez? Ou est-ce que vos racines sont vraiment en Dieu? Attention, je ne fais pas l'apanage des gens qui peuvent tomber. Je dis, c'est des humains, c'est des gens humains qui peuvent tomber, qui peuvent décevoir et blesser, etc. Et je continue dans cette parenthèse. J'ai commencé à regarder peut-être un peu les dominantes communes des gens qui parfois, au nom de Dieu, sont des leaders importants et qui chutent, que ce soit moralement, dans l'argent, le pouvoir, etc., etc. On trouve à chaque fois une dominante commune qui est l'amour de l'argent, qui est l'orgueil et qui est l'absence de redevabilité. L'absence de redevabilité, c'est quoi? C'est confesser vos péchés. C'est tu vas voir quelqu'un et tu dis, écoute, il y a quelque chose qui va pas mal dans ma vie, je t'autorise, je te donne le droit de me poser des questions dans ma vie s'il y a des choses qui sont pas bonnes ou pas. Mais qui fait ça? Et en fait, quand vous le faites, c'est une sécurité que vous vous mettez à vous-même de ne pas pécher. Et au niveau de l'Église, dans notre corpus, dans comment nous on crée l'équipe, il y a deux couples qui sont ici, c'est les Barbes et les Gabias. Il y a deux couples qui sont autour de nous qui peuvent me dire non, ou je le sens pas. Des fois, ça m'énerve un peu. Mais je ne vais pas plus loin s'ils le sentent pas. Et je suis obligé de ronger mon frein, et ben ça me protège. Est-ce que vous me suivez? Ça me protège, ça vous protège. Et en fait, c'est... Tu autorises quelqu'un d'autre d'avoir un droit de regard dans ta vie. Et c'est vraiment ça, de mettre quelque chose à la lumière. De dire, un, je galère avec ça. Deux, t'as le droit de regard dans ma vie. Trois, qu'est-ce que je nourris quand personne ne me voit? Est-ce que ma vie secrète soutient ou sabote ma vie publique? Est-ce que je cherche plus à être vu ou à être vrai? Et concernant ce gars-là que j'admirais, j'ai même acheté des bouquins, ce qu'il disait était bon. Mais c'est comme si il y a toute une partie de la vie cachée en lui qui était morte, où Dieu n'y avait pas accès. Et du coup, les fruits extérieurs, on disait « Ah, c'est beau, c'est beau !» Et tout d'un coup, un jour, parce que Dieu aime son peuple, et parce que Dieu aime ce gars, il vient creuser tout autour, il vient exposer ce qui était caché, et là, Dieu accepte, et ça fait mal. Dieu est prêt à payer la facture de tous les dégâts collatéraux. Et du coup, je veux vous inviter, les amis, ici, à checker vos racines et à surtout ne pas le fonder ou le mettre sur une église, quand bien même elle est extraordinaire, quand bien même elle est bien, à ne pas le mettre sur un ministère, quand bien même il serait un orateur, vous comprenez? Et c'est simple, et vous allez me dire, ouais, mais bon, c'est facile, parce que toi, on suit quand même un leader. Oui, c'est vrai, mais le vrai leader, au-dessus de tout, le vrai berger, c'est Jésus. Et je vous dis ces choses, parce qu'il est possible, avec tout l'amour qu'on a, qu'à un moment donné, faillible humainement, vous soyez déçu par moi ou d'autres, ou l'Église en général, ou même un chrétien. Et là, qu'est-ce qui se passe? Si vos racines n'ont pas poussé profondément, vous allez être comme l'arbre, couché. Vous êtes grand, mais vous avez des petites racines. Un coup de vent, il n'y a plus personne. Du coup, quand vous avez une épreuve, quand il y a un accident, quand il y a une injustice, quand il y a des choses que vous ne comprenez pas, cherchez plus en Dieu. Affermissez-vous en Dieu. Allez chercher plus en Dieu. Ça, c'est mon message. Afin qu'on ne chute pas. Afin que si Dieu vienne creusée tout autour et que nos racines soient exposées, que ta vie cachée, que tout ce que tu fais dans l'ombre, que ce que personne ne connaît, si Dieu regarde ta vie, il dit « c'est bon, fidèle serviteur, c'est ok, je suis avec toi ». Et à tous ceux qui ont une vie cachée où il y a des choses, tu dis « ouais, on va se dire les vraies histoires, 2 minutes. Il y a des trucs dans ma vie, je les fais en cachette, que personne n'est au courant et j'ai du mal, j'arrive pas à m'en sortir. Si c'est ton cas, viens, on en parle et on demande à Dieu d'intervenir. Et peut-être même de couper, ouch, de couper les racines d'amertume, de dépendance, des choses dans mon cœur avec lesquelles je me suis habitué, des gens que je ne pardonne pas. Eh bien, on demande à Dieu, viens, fais l'opération. Vous êtes avec moi ? On lève la main. Seigneur, viens, fais l'opération. Les amis, je connais aucun chirurgien au monde qui opère dans le noir. Il risque d'y avoir des problèmes. Qu'est-ce qui fait le toubib quand tu es sur la table ? Clac, la lumière. Un coup de bétadine et fou. Et nous, on dit, Seigneur, opère-moi dans le noir, surtout. Eh bien, en fait, ça ne marche pas comme ça. C'est vrai dans le monde naturel, c'est vrai dans le monde spirituel. Et je termine avec ça, c'est que Satan perd ses pouvoirs, il perd son autorité, il perd son adhérence à ta vie à partir du moment où tu amènes ces choses à la lumière. Je vous invite à fermer les yeux, à prier maintenant. Alléluia. Seigneur, que ma vie cachée puisse te révéler, te démontrer, que ma vie cachée puisse honorer l'Éternel. Alléluia. Jamin, si tu veux mettre un fond de piano, s'il te plaît. Alléluia. Et à l'image de ce vigneron qui vient et qui intercède, c'est comme s'il y a un jugement de Dieu qui vient. Et aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle l'ère de la grâce, c'est-à-dire sous Jésus, qui vient et qui dit « donne-y encore une chance ». Sa vie n'est pas en règle. Le figuier est stérile, il ne porte pas de fruits, mais il dit « donne-y encore une chance ». Et là, on est dans des temps, on est dans des moments et des années où Dieu te tend encore la main et te dit « c'est encore une opportunité pour toi, c'est encore ta chance, saisis-la ». Mais il viendra un jour et un moment où tu vas mourir, tu vas te rendre devant Dieu. Et ce sera devant ce juge, devant ce propriétaire de la réunion, de ce propriétaire de la vigne qui dira « Mais on a tout fait pour que tu portes du fruit et tu n'en as pas porté. » Et les amis, il y a ce côté de « t'as occupé la terre inutilement ». En fait, Dieu va te demander des comptes. Dieu va te demander, il va te réclamer un fruit.